Père Éric Volbrette, bonsoir.
Bonsoir à tous, bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous, à tous les auditeurs de Radio Maria, que véritablement le ressuscité vous illumine dans vos vies personnelles, dans vos familles et aussi dans vos communautés respectives. Et puis, puissiez-vous être, nous en reparlerons peut-être tout à l'heure dans l'émission, être illuminé par l'Esprit Saint pour ne pas avoir peur, n'ayez pas peur, puisque la présence du ressuscité nous donne la paix, quelles que soient les situations que nous sommes en train de vivre à temps et à contre-temps. Mais à partir du moment où ces situations nous ont été déjà annoncées, il n'y a aucune raison que nous puissions, en Église, dans l'Église catholique, défaillir. Voilà, c'est ce que je voulais dire comme petit signe de bienvenue à celles et ceux qui nous écoutent. Alors nous reprenons donc tout ce grand fil conducteur du dessein bienveillant de Dieu que depuis le mois de septembre je vous ai proposé à travers une certaine exégèse, une certaine explication de ce passage extraordinaire, fondamental de la théologie de saint Paul que nous avons dans la Révélation, dans son épître aux Éphésiens, le premier chapitre, sur le fait que nous sommes tous, quelles que soient nos vocations, nous sommes tous depuis toute éternité l'objet de cette pensée amoureuse particulière, de cet amour trinitaire qui désire véritablement nous appeler, nous élire à la sainteté pour faire de nous tous des fils dans le Christ, afin de nous diviniser. C'est ça qui est extraordinaire, afin que nous soyons véritablement les fils et les filles du Père, et appelés donc à former, c'était déjà le thème du mois dernier, à former une nouvelle famille qui est la famille de l'Église. Et donc, je voudrais avec vous à nouveau continuer sur ce thème, car nous étions partis le mois dernier sur la réalité du Christ, notamment cette réalité un peu complexe, compliquée un petit peu par cette réalité, par cette expression du Christ théandrique, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment le Christ est déjà présent dans la réalité de la Trinité avant la fondation du monde, alors qu'il n'est même pas encore incarné. Donc nous avions essayé de répondre à cela, et pour essayer donc aussi de comprendre aussi ses virtualités, ses potentialités, en ce sens que si le Christ est véritablement déjà présent dans une réalité qui est à la fois non produite et encore à produire, cela veut dire que non seulement chacune et chacun d'entre nous, mais, et nous en viendrons tout à l'heure à ce sujet, l'Église qui est son épouse est déjà présente au cœur de la Trinité. L'Église est présente, je l'avais souligné le mois dernier, par le Verbe, par cette humanité du Christ qui n'est pas encore produite, mais qui est déjà présente dans l'éternité de Dieu. Et avec toutes les conséquences, c'est que Dieu nous connaît tous collectivement, personnellement, individuellement, que nous sommes discernés d'avance, nous sommes voulus, connus, nous sommes aimés dans la Sainte Trinité, et que nous voyons que le début et la fin de toute l'histoire, dans cet épître aux Éphésiens, c'est la révélation, c'est donc le Christ. Tout homme est désiré pour lui-même, par le Christ. Le Christ, nous l'avions souligné le mois dernier, est le premier-né de cette nouvelle création. Il est aussi le révélateur du mystère de Dieu, de ce dessein bienveillant, et en plus, il est lui-même le mystère, c'est-à-dire qu'il est véritablement l'objet de la bienveillance de Dieu. Alors si vous vous souvenez des deux premières émissions que j'avais commises au mois de septembre et au mois de novembre, nous avions réfléchi sur ce mystère, sur le mystère et sur l'idée de la bienveillance de Dieu, l'œil d'Okia, dit-on en grec, pour découvrir que nous sommes tous l'objet de cette bienveillance de Dieu, mais qui nous est révélée par le Christ, qui est donc le mystère lui-même. L'Église est donc présente dans le cœur de Dieu, et un petit peu, parce que cela me revient comme prêtre, j'avais véritablement un petit peu sollicité les auditeurs et les auditrices le mois dernier à être des défenseurs de l'Église, d'aimer l'Église, de la servir et de prendre part à son propre mystère en étant au cœur même de l'Église. C'était un tout petit peu, je dirais, cette introduction que j'avais faite sur la place du mystère de l'Église dans le dessein bienveillant de Dieu, c'est-à-dire dans son plan personnel pour le monde et pour chacune et chacun d'entre nous. D'ailleurs, alors je vais donc continuer mon propos ce soir pour déjà dire que l'Église est cette demeure, cette maison sponsale que Dieu, trinitaire, désire produire. D'ailleurs, la théologie du Concile Vatican II a présenté dans la constitution dogmatique, Lumen Gentium, l'Église est présentée comme un mystère au sens, nous disent les pères conciliaires, de l'idée biblique paulinienne du dessein divin de salut qui se réalise dans le temps des hommes, où d'ailleurs l'Église s'offre elle-même comme étant le lieu de la rencontre entre l'initiative divine et l'œuvre humaine. Dans ce contexte, nous pouvons aussi évoquer la vision de l'Église dans une dimension sponsale, c'est-à-dire dans une dimension maritale, l'Église étant considérée comme une épouse, comme étant d'ailleurs cette conséquence analogique que nous avions développée dans les dernières émissions aux relations trinitaires dans lesquelles on peut discerner, je cite, la demeure de l'amour. La Trinité est une demeure d'amour pour nous faire comprendre de manière analogique que l'Église doit être considérée dans sa vocation, dans son être propre, comme étant la demeure de l'amour. Alors, l'amour avec un grand A, c'est-à-dire l'Église catholique actuelle, c'est la demeure de la présence de l'amour, c'est la demeure de Dieu, mais bien entendu, elle doit être aussi considérée que tous ceux et celles qui font partie de l'Église doivent vivre de cet amour. Et alors là, vous m'avez tous compris, au bout de 2000 ans de l'Église, cet idéal est vraiment réalisé, mais il est aussi véritablement malmené, si vous voyez ce que je veux dire, par l'histoire, par notre péché personnel. L'Église, comme elle est présentée d'ailleurs dans le premier chapitre de Lumen Gentium du Concile Vatican II, cette Église vient de la Trinité, nous expliquent les pères conciliaires. Elle est structurée à l'image de la Trinité et cette Église va vers un accomplissement trinitaire de l'histoire. En d'autres termes, le Concile Vatican II propose tout un examen de l'origine de l'Église, du présent de l'Église, mais aussi de son avenir, toujours à la lumière de la Sainte Trinité. Au principe, on pourrait dire il y a l'amour. Au terme, il y a un amour. Le Père engendre son Fils, nous le savons, dans l'amour. Il l'enveloppe de son amour et il le fait demeurer dans son amour. En Dieu, le mystère de la génération éternelle s'achève donc dans un mystère de demeure dans l'amour. Et cela nous fait penser à tout l'enseignement de Saint Jean, que ce soit dans son chapitre 15 à son chapitre 17, où Jésus ne cesse de nous inviter à demeurer dans son amour. Et cette demeure de l'amour, c'est comme un mystère maternel en Dieu, à condition, bien entendu, d'entendre ce mot « maternité » d'une manière de le comprendre plutôt comme étant de nous faire demeurer dans l'amour. C'est dire que les épîtres aussi de saint Paul évoquent constamment le rôle aussi maternel, par exemple, du Saint-Esprit. Le mystère de Dieu, selon lui, n'est qu'une circulation d'amour à une structure proprement trinitaire. De cette demeure divine, nous pouvons en faire une analogie. Comme il existe en Dieu, Trinité, une demeure, de la même manière est présente dans le monde une autre demeure. Et cette demeure, c'est l'Église. Elle est l'unique maison. Elle est ce monde qui est entièrement recréé. Elle est cette demeure d'amour ayant pour objet de nous apprendre progressivement, nous aussi, à vivre, à nous habituer à la vie divine. C'est-à-dire qu'à nouveau, dans le cadre global de cette expression du dessein bienveillant des dieux, qu'une telle approche, qu'une telle compréhension de l'Église, eh bien c'est une vision qui est optimiste, qui est dynamique, car la vie en ce monde a un véritable sens. Pour le chrétien, qui ne se trouve d'ailleurs jamais seul ou livré seul à lui-même, le chrétien demeure protégé au sein de la demeure de Dieu, au sein de la maison de Dieu. Bien plus, une interprétation à cette notion de demeure, nous pourrions dire que nous avons l'habitude d'entendre ou de lire que le chrétien a déjà en ce monde le désir d'être en Dieu, il a le désir d'être avec Dieu, il a le désir d'habiter dans la patrie de Dieu, qui sera d'ailleurs un jour sa demeure éternelle, où chacun doit, dans l'Esprit Saint, par le Fils, retourner un jour au Père, et on l'entend souvent dans des obsèques chrétiennes, jusqu'à ce que Dieu soit tout en tous, nous écrit Paul aux Corinthiens dans son chapitre 15. Mais le chrétien est aussi en route sur le chemin de Dieu, et à contrario, la notion de demeure appliquée à l'Église, a un sens qui peut être ici considéré comme résolument eschatologique, c'est-à-dire qui vise déjà les fins dernières. Rappelons-nous dans l'Apocalypse chapitre 21, verset 3, la demeure de Dieu parmi les hommes, c'est la cité sainte, c'est la Jérusalem céleste. C'est dire que l'Église, dans le livre de l'Apocalypse, est considérée comme un lieu eschatologique de la vie divine. Si je suis dans l'Église, je suis déjà dans la vie éternelle. Dans le contexte de l'économie du salut dans lequel nous sommes, vous et moi, l'Église devient en conséquence, on pourrait dire, cette matrice de l'élévation des hommes et des femmes à la participation à la vie divine, dans la communion à la Sainte Trinité. C'est grandiose quand on y pense. L'Église est cette matrice de notre déification. Elle est la matrice de notre divinisation. Nous revenons à nouveau à ce thème premier que nous avions étudié en décembre et en janvier. Nous sommes tous élus par le Seigneur, par la Trinité, pour devenir saints et à son image, et pour que nous devenions des fils. Eh bien, comment cela procède-t-il pour nous comme baptisés? C'est parce que nous sommes dans l'Église, nous sommes dans la demeure de la Sainte Trinité. Et donc, c'est pour nous une matrice de notre propre divinisation, de notre propre engendrement de devenir des fils de Dieu. N'oublions jamais la question extraordinaire de Saint Nicodème au Christ à propos de cette phrase qui lui paraît bien étrange. Quiconque ne naît pas de nouveau n'aura pas la vie éternelle, et Nicodème comprend très bien ce que le maître est en train de lui dire, à tel point qu'il lui dit, mais comment un vieil homme, il parle de lui-même, la charité bien ordonnée commence par soi-même, chers auditeurs, comment un vieil homme comme moi pourrait-il rentrer à nouveau dans le ventre de sa mère? Il a bien compris le Christ. Eh bien le Christ le dit lui-même, quiconque est né de l'eau et de l'esprit, nous le comprenons par le baptême, eh bien, est né à la vie nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a cet Esprit Saint qui va faire en sorte de nous transporter dans le ventre, excusez-moi l'expression, mais un petit peu c'est symbolique, hein, dans le ventre d'une deuxième mère, l'Église, qui va, par le bain du baptême, nous engendrer à la vie nouvelle, qui va nous faire sortir d'elle-même comme étant des fils et des filles de Dieu. C'est-à-dire que l'Église est là pour transformer les chrétiens à l'image du Christ. Cela nous fait comprendre que la liturgie, d'ailleurs, la liturgie chrétienne, est une caractéristique de cette transformation, de cette matrice. La liturgie, la messe, le bréviaire, la prière, la louange, c'est un moyen d'apprentissage à l'amour dans un lieu déterminé. Et c'est la raison pour laquelle, là, sur le plan pastoral ou sur le plan eschatologique, sur le plan moral, nous voyons qu'il y a des gens, excusez-moi, qui ont tout faux quand ils disent « je n'ai pas besoin d'église » ou « je m'arrange avec le bon Dieu ». Ils n'ont pas compris ou ils ne veulent pas comprendre que lorsque je suis dans l'église en communauté, je me divinise. Je permets à Dieu et à moi-même à mettre en œuvre cette œuvre de divinisation qui n'est pas simplement une œuvre personnelle, mais qui est une œuvre collective parce qu'elle est familiale. C'est le parallèle que l'on peut d'ailleurs trouver dans l'ouverture de l'Eucharistie, de chacune de nos messes, lorsque le prêtre dit « la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous tous ». C'est-à-dire que chacun d'entre nous met tous ensemble, c'est parce que nous sommes dans cette communion de l'Esprit, dans l'amour du Père et avec le Christ, que nous sommes véritablement divinisés. Je ne peux pas m'exclure de l'Église, car si je m'exclus de l'Église, ou du projet de l'Église, même dans sa réalisation historique, je m'exclus, sans le savoir, de l'œuvre de la divinisation bienveillante de Dieu. On pourrait dire, alors là, de cette manière, on arrive à comprendre que veut dire aussi une excommunication. L'excommunication n'est pas simplement une sanction de l'Église sur les fidèles, c'est très souvent en fait une propre sortie des fidèles de la communion de l'Église, de la richesse de l'Église. Ajoutons que l'Église, vue dans le sein du Père, est elle aussi élue dans le Christ dès avant la fondation du monde et la création du monde pour être le lieu de l'adoption filiale et de l'amour. Cette vision implique que le monde a été créé en vue des hommes et de l'Église, puisque l'Église est justement ce que Dieu avait en vue lors de la création. Il n'avait pas simplement en vue chacun et chacune d'entre nous, de manière, je dirais, personnelle, individuelle, il avait en vue notre union à tous dans une même famille qui est l'Église. Alors nous continuons donc cette méditation dans le cadre du dessin bienveillant à propos de la figure de l'Église, et je voulais en quelque sorte m'arrêter avec vous sur cette figure de l'Église comme étant déjà avant tout dans le cœur de Dieu une demeure de l'amour, comme la Sainte Trinité est une demeure d'amour, elle désire communiquer cet amour au cœur d'une réalité bien visible, d'une nouvelle demeure sur cette terre qui préfigure le royaume de Dieu, pourrait-on dire, dans lequel nous devons être, on pourrait dire, en stage d'amour, eh bien c'est l'Église. Cette Église qui est cette demeure de l'amour, nous en avons aussi une figure complémentaire, toujours dans la Révélation, grâce aux écrits de saint Paul, qui nous présente l'Église comme le corps du Christ, ce corps mystique du Christ, hein, écrira dans une très belle encyclique le pape Pie XII, et qui est considérée comme étant cette épouse du Christ. C'est par l'Église que se réalise cette union intime d'amour entre Dieu et l'humanité, une union qui trouve, on pourrait dire, une analogie dans la figure de l'alliance entre le Christ et son épouse l'Église. Alors, il y a certaines personnes qui aimeraient tellement détruire notre Église et notre foi pour essayer de trouver une épouse au Christ, lui qui était célibataire justement parce qu'il a une seule et unique épouse, c'est l'Église notre mère. On pourrait dire, avec les théologiens de l'Orient, le Christ est l'époux de chacune de nos âmes. Voilà, c'est une analogie qu'on fait, hein. Mais l'Église chrétienne, catholique, c'est l'épouse du Christ. Alors on relie ce mystère d'élection des hommes par le Père, rappelez-vous dans le dessin bienveillant, pour les constituer pourrions-nous dire, dans un corps, l'Église, appelée donc à devenir l'épouse de son Fils. C'est-à-dire que ce thème du mystère et ce thème de la vision sponsale, cette vision nuptiale, se retrouvent ainsi associés. Toute l'histoire apparaît centrée sur le mystère des noces de l'agneau, que nous célébrons d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, dans la liturgie chrétienne, les noces de l'agneau, cette unité parfaite avec Dieu, et unité pourtant qui a, dans laquelle aucune confusion. La vision des noces tend à conjuguer au bénéfice de l'Église et de son altérité propre deux éléments. Le premier, c'est que l'Église peut être considérée comme une personne distincte dans son être. Elle est distincte à celle du Christ. Et deuxièmement, elle est une réalité entièrement unie à lui par le lien d'un mariage qui, de deux personnes, n'en fait plus qu'une. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ce que la Sainte Trinité a voulu unir le Christ et son Église, malheur à quiconque aimerait bien dissocier l'Église du Christ. Ce lien, nous pouvons comprendre que les hommes sont intéressés au premier plan par le dessein de Dieu, non pas parce qu'ils seraient au service de la réalisation d'un projet de l'architecte de l'univers, d'un Dieu anonyme qui serait inconnaissable, mais justement parce qu'ils se trouvent dans une relation sponsale, dans une relation d'époux, dans une relation d'altérité avec leur Dieu, nous dirions presque d'égalité, et ça je le soutiens, nous ne sommes pas des esclaves, nous ne sommes pas des soumis, nous sommes appelés à vivre une relation sponsale avec Dieu, c'est phénoménal quand on y pense. Eh bien ce dessein bienveillant de Dieu, on voit bien, concerne tous ces hommes au premier plan. C'est dire que dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, nous comprenons que depuis toute éternité, Dieu avait pensé aux noces éternelles de son agneau qui est le Christ. Quand Dieu a créé le monde, quand Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire un homme, une femme capable de communier à la vie divine, c'est véritablement les noces que Dieu prépare. C'est ici l'idée d'un partage de destinée. Il n'y a pas d'un côté, on pourrait dire, Dieu qui regarde un petit peu les hommes en train de vivre, et puis on va voir ce qu'ils peuvent faire. Non, non. Les hommes sont appelés à avoir la même destinée que Dieu. On pense d'ailleurs à l'affirmation « Ressouvenez-vous du Père miséricordieux envers son Fils aîné dans l'Évangile. Tout ce qui est à moi est à toi. » On pense surtout à la vision sponsale qui nous est offerte à travers l'Ancien Testament du livre d'Osée que je vous invite à relire. C'est extraordinaire. Dieu communique à son peuple ce qu'il est et ce qu'il a dans un échange créateur de communion et d'alliance, ce qui aboutit à une appartenance mutuelle, à un véritable partage de destinée. Seule l'image des noces avec Dieu, qui à partir du livre d'Osée et des prophètes, d'ailleurs traverse toute la Bible jusqu'au livre de l'Apocalypse, évoque le don réciproque des fidélités et le partage de la communion. D'ailleurs, si je voulais faire une parenthèse, dans l'évangile de Saint Jean, la première manifestation du Christ sur le plan public, c'est à l'occasion d'un mariage. En fait, Jean est en train de nous préparer, nos cœurs, nos intelligences, au fait que le véritable époux aux noces de Cana, c'est bien le Christ. Et que l'épouse, c'est chacun et chacune d'entre nous. Dieu se penche toujours sur son peuple comme étant l'époux, sur l'épouse, dont toute l'existence tient dans le regard de celui qu'il aime. En vérité, on pourrait dire que ce que Dieu aime en Israël, c'est son Fils à naître en lui pour diviniser son peuple qu'il appelle à une relation sponsale, maritale, avec ce Dieu trinitaire. Ainsi, on peut accorder aux êtres une pleine justification de leur nature en posant cette nature dans une dépendance radicale du don créateur. L'homme, la femme, se possède dans sa liberté parce qu'il lui est donné, on pourrait dire, de se posséder. Le véritable paradoxe, on pourrait dire chrétien, tient en ce que la liberté des hommes est effective quand une relation avec celui qui se penche comme étant l'époux sur l'épouse, qui ne peut vivre librement, qui ne peut s'accomplir que si cette épouse, que si cette humanité, que si cette Église demeure focalisée dans le regard de ce Dieu trinitaire, dans le regard du Christ qu'il aime. En dehors de cette relation, en dehors de ce regard aimant, de vis-à-vis, on en déduit l'autodestruction de l'homme et de la femme, son néant, l'autodestruction de l'être créé. L'homme qui ne veut pas aimer ou adorer Dieu se détruit lui-même, sort lui-même de l'Église. Celui qui ne prie pas n'est déjà même plus dans l'Église, il n'est plus dans la relation sponsale avec Dieu, il ne participe déjà plus à la vie éternelle. C'est dire que tous nos actes de chaque jour sont importants. Une négligence peut être le début d'un toboggan, j'ai envie de dire, qui fait que parfois il y a des choses qui sont irrattrapables. Alors je ne le pense pas. Je pense que Dieu est miséricorde. Il est toujours capable de nous rattraper sur la descente du toboggan de nos libertés qui se dérobent à lui. Mais pour cela, il faut quand même avoir un regard, tel l'enfant qui est en train de chuter, qui regarde où est sa mère, qui regarde où se trouve son père, pour pouvoir être presque déjà debout par le regard du père ou de la mère qui l'aime et qui le recherche. C'est-à-dire que la distance et la proximité avec le Créateur peuvent maintenant très bien être comprises. C'est-à-dire que la présence dans l'Église d'un certain sens de l'être chrétien ne peut que se maintenir, j'ai envie de dire, que par l'adoration. Notre nature actuelle, comme homme, comme femme, est totalement accomplie que dans une relation sponsale avec le Christ. La meilleure relation sponsale que nous avons dans l'Église avec le Christ, c'est l'adoration eucharistique, c'est la participation dominicale, voire même de chaque jour à la messe. Parce que l'adoration, c'est le signe de l'aspiration de toutes les créatures, des femmes et des hommes, à cette union sponsale. Tout le monde sent en lui-même, même un non-chrétien, est aspiré à un bonheur, à ce partage de la vie divine, à une possession de Dieu. D'ailleurs, dans ceux qui désirent en fait jouir de la vie, ou ceux qui parfois jouissent de tel ou tel péché, c'est parce qu'ils prennent un mauvais but, une mauvaise direction, car au fond d'eux-mêmes, ils cherchent un bonheur qu'ils ne peuvent que trouver en Dieu. Notre béatitude, c'est bien le mystère des noces de Jésus, c'est la possession des personnes divines dans la joie et dans la paix. C'est dire donc que l'Église est bel et bien cette demeure sponsale de Dieu, c'est-à-dire une demeure d'amour qui nous est rendue possible dans notre histoire par le Christ, qui suscite en ce monde son épouse, son Église, pour nous apprendre à vivre de cette vie divine. Malgré l'événement et le déroulement historique de ce qui est convenu d'appeler la chute originelle, mais qui a été assumé éternellement dans la Trinité, Dieu en fait poursuit son dessein bienveillant et toute son œuvre. Tout est considéré, tout est vu, Tout est prévu, tout est aimé en Dieu depuis toute éternité. Le patrologue saint Maxime le Confesseur a affirmé que l'incarnation et la déification se correspondent et s'impliquent mutuellement. L'union des deux natures ayant été déterminée, rappelez-vous, j'en avais parlé la dernière fois, par le Conseil éternel de Dieu, parce que, disait-il, c'est la fin dernière pour laquelle le monde a été créé du néant. En effet, la création est voulue par Dieu pour le mystère qu'elle préfigure. Le créateur de l'univers est devenu par nature ce qu'il n'était pas. Voilà, nous dit saint Maxime le Confesseur, le grand mystère caché. Voilà la fin bienheureuse en vue de laquelle tout a été créé. Voilà le but divin voulu dès avant l'origine des êtres. C'est le regard fixé sur cette fin que Dieu appelle les choses à l'existence. Le Verbe de Dieu, devenu homme selon la nature, Jésus-Christ, révèle la fin en vue de laquelle les créatures ont reçu le commencement de leur être. Car c'est en vue du Christ, ou plutôt en vue du mystère du Christ, que tous les siècles et tout ce qui remplit les siècles ont reçu dans le Christ le principe et la fin de leur être. Mais c'était à Adam, le premier homme, que revenait le rôle assigné par Dieu de réunir les différentes sphères du cosmos pour que Dieu confère à toutes ces sphères, et spécialement aux hommes, la divinisation. Mais voilà que la chute d'Adam a contrarié le dessein de Dieu, a créé un drame qui certes était vu et assumé dans la préscience divine, mais qui devait se dénouer par l'incarnation rédemptrice de Jésus-Christ pour nous diviniser. Et voilà où se trouve le mystère. Après la chute, voilà que le Christ arrive, il est le nouvel Adam, qui se trouve, lui, chargé de cette œuvre de récapitulation en vue du salut et de la divinisation. C'est pourquoi ce thème de la récapitulation que l'on retrouve chez Saint Paul, a une caractéristique dynamique et progressive dans l'histoire qui, faisons attention, n'a rien à voir à un retour au premier état adamique, mais qui est justement une expression qui dit un rapport que le Christ est notre tête, il est la tête de l'Église et il livre surtout cette double idée qu'il résume et qu'il rassemble tout en son propre corps. Le dessein de Dieu prend alors éternellement en considération cette chute, et s'il se trouve que c'est dans l'économie du salut que Dieu sauve le monde, c'est aussi à travers elle qu'il se révèle et qu'il accomplit son dessein extraordinaire d'adoption filiale et de constitution de l'Église. Tel est donc l'objet même du mouvement de la révélation. La révélation, c'est l'initiative par laquelle Dieu crée l'Église, qu'il crée la Bible, qu'il crée la tradition, qu'il crée les sacrements pour se communiquer lui-même. La révélation, c'est l'avènement de Dieu dans l'histoire humaine destiné à consommer un jour le royaume. Dieu nous invite donc à communier à sa vie dans l'Église. Cette révélation, elle est l'acte de Dieu qui parle à l'homme pour lui manifester son dessein d'amour, ce qui implique qu'elle ait pour contenu non pas des vérités isolées, mais la réalité de la communion de l'amour que Dieu réalise entre lui-même et l'humanité dans son Église. Sa manifestation témoigne du fait que Dieu est déjà à l'œuvre pour créer dans l'humanité cette communion dans l'Esprit-Saint dont découle aussi bien la structure de l'Église et notre propre justification. L'Église est l'objet même, véritablement, de cette révélation de Dieu qui se manifeste aux hommes. Et le mois prochain, je vous proposerai de continuer notre méditation pour comprendre comment le Fils devient, comme avec les pèlerins d'Emmaüs, l'exégète du Père et le révélateur du mystère de l'Église, mais aussi comment cette Église devient elle-même la plénitude du mystère de Dieu, parce qu'elle est la présence du mystère, elle est la présence en ce monde du Christ, et elle nous donne dans une tradition, eh bien je dirais, non seulement par les Écritures, la compréhension du mystère, et cette compréhension qui se donne et qui se vit au cœur même de notre adoration, au cœur même des sacrements, au cœur même de notre espérance.
Merci Père, à très très bientôt.
À très bientôt, merci à tous.
Au revoir.
Au revoir.